Dans mon jardin, j'ai vu pousser, venue de je ne sais où, une rose trémière, qu'on appelle aussi passerose. Vous la connaissez, cette très grande plante, à la tige droite et sèche, aux feuilles larges et rêches. Elle produit des fleurs rouges, roses ou blanches, qui ressemblent un peu à des hibiscus. Elle peut avoir jusqu'à 3 mètres de haut, et même 4 dans certaines régions. Son nom, dit-on, vient du mot « outre-mer ». La rose d'outre-mer serait devenue la rose trémière. Car elle vient du Moyen-Orient, sans doute de Syrie, d'où elle aurait été rapportée au Moyen-Âge par les croisés. Elle est d'ailleurs proche de la rose de Damas, une autre variété d'origine orientale qui est cultivée pour son parfum. On en tire une essence très délicate, une fragrance que les fabricants de parfums appellent justement rose de Damas. Mais vous l'avez deviné, ce n'est pas tout à fait d'horticulture que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de l'Orient. Cet Orient chrétien qui s'est épanoui en Égypte, en Palestine et en Syrie, dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, à l'époque de ceux qu'on appelle les pères du désert. Et plus précisément, je voudrais vous parler d'une forme très spéciale de vie monastique apparue en Syrie au début du 5e siècle. Des moines, des ermites, sont allés vivre au sommet de colonnes, mot qui en grec se dit « stylos », d'où leur nom de moines stylites. Les colonnes en question mesuraient entre 10 et 20 mètres de haut, ce qui est déjà impressionnant du point de vue architectural. Il fallait un sacré savoir-faire, c'est le cas de le dire, pour élever de tels monuments. Parfois elles étaient bâties à l'écart, dans un endroit désert, parfois aussi au milieu d'un monastère, ou près des routes caravanières qui étaient très nombreuses en Syrie. Dans tous les cas, elles se voyaient de loin et attiraient les foules. Les récits parlent de milliers de personnes attroupées autour de la colonne et levant les yeux vers le stylite, là-haut, comme vers une sorte d'extraterrestre. Car le plus étonnant, bien sûr, ce n'est pas la tige, mais la fleur, ou plutôt la fleur perchée sur sa tige, d'où l'analogie avec celle qui a poussé dans mon jardin. Le stylite, c'est un peu la rose trémière du jardin des pères. Sans qu'on sache pourquoi, il pousse plus haut que les autres, il s'épanouit verticalement, dans une sorte de beauté solitaire et solaire. J'aurais pu le comparer aussi au tournesol. Mais laissons les images et demandons-nous, moins poétiquement, comment les stylites faisaient pour vivre sur la plateforme minuscule et parfois sans rambarde qui était posée au sommet de la colonne. Ici, nous touchons l'inimaginable, et pourtant les témoignages sont unanimes. Ces hommes ne mangeaient presque pas, ne dormaient presque plus, étant eux-mêmes devenus des colonnes de prière, des êtres extatiques. La tradition orientale les appelle volontiers des pères neptiques, du mot grec nepsis qui veut dire la veille, la vigilance. Ils étaient des veilleurs, des guetteurs de l'esprit. Dans les villes d'autrefois, sur les murailles et dans les tours de guet, on postait des gardiens qui surveillaient les incendies ou l'arrivée des ennemis. La sécurité de tous reposait sur eux, il ne fallait pas s'endormir. Eh bien, je crois que le stylite se voyait comme une sorte de vigile, de gardien du monde, priant pour ceux qui ne priaient pas, c'est-à-dire nous tous, qui même dans des vies très actives, avons souvent l'âme endormie. Priant pour tous les autres, c'est-à-dire non seulement en leur faveur, mais à leur place, et les représentant devant Dieu. C'était leur première et principale fonction, l'intercession. Car ne croyons pas que le vrai stylite grimpait là-haut pour s'enfermer dans sa tour d'ivoire, par mépris pour les autres hommes et pour montrer qu'il se croyait supérieur à eux. C'est exactement le contraire. Le vrai stylite était profondément humble. Il vivait sa vocation comme une mission spéciale, dangereuse, douloureuse, mais bonne pour les autres, plus encore que pour lui-même. Les premiers hommes qu'on enverra sur la planète Mars devront avoir cette forme d'abnégation, et surtout ne pas se prendre pour des surhommes. Oui, le stylite est une sorte d'astronaute, envoyé vers le ciel, non pour lui-même, mais pour les autres. Car de quoi croyez-vous qu'il parlait à Dieu dans la chaleur du jour et le silence des nuits? D'eux-mêmes et de leur petite misère? Non, mais des autres hommes. Et c'est pourquoi on venait de partout leur confier toutes sortes d'intentions de prière. Car voici le paradoxe. En quittant le monde à la verticale, comme dans une fusée, les stylites portaient et emportaient le monde entier avec eux. En touchant l'éternité, ils restaient dans le temps et de leur temps. Certains d'entre eux ont été les conseillers des empereurs, qui venaient les consulter pour toute grande décision politique ou militaire. Beaucoup d'entre eux étaient très au courant de l'actualité, très concernés par les guerres qui déjà à l'époque secouaient la région. Du haut de leurs colonnes, ils faisaient rayonner un esprit de paix, de consolation, de bonté. Rien de paranoïaque, aucune auto-exaltation dans ce mode de vie pourtant extraordinaire. On les faisait prier pour les malades, on leur confiait tous les soucis, toutes les misères, et de tout cela ils faisaient un cierge. Ils étaient eux-mêmes un cierge brûlant devant la face de Dieu. On les entendait chanter jour et nuit, gémir comme des colombes. Permettez-moi de nommer 7 d'entre eux, sur lesquels un beau livre vient de paraître, intitulé « Le vertige divin ». Ce sont les plus célèbres de ces personnages. La plupart sont vénérés comme des saints. Siméon l'Ancien, Daniel le Stylite, Siméon le Jeune, Alypius le Stylite, Luc le Centenaire, Lazare le Galésiote, Josué le Chroniqueur, et beaucoup d'autres connus ou inconnus, tous originaires de Syrie, ont illustré cette vocation étonnante, qui a peu à peu disparu de la tradition chrétienne, mais qui reste comme un signe un peu fou, un appel qu'aucun de nous ne peut imiter, bien sûr, mais qui nous interpelle et auquel personne ne peut rester indifférent. De ma petite place, et pour finir, je voudrais lever les yeux vers ces saints moines, ces grands intercesseurs, et leur confier les malheurs actuels de la Syrie. Au jardin des pères, les stylites ont fleuri comme des êtres suppliants, comme des fleurs ferventes, comme de grandes roses trémières. Que leur parfum et leurs prières nous procurent la paix.